Lorsqu'un certain développement s'est achevé et qu'un nouveau développement commence, plusieurs moments particuliers ont lieu dans la vie de chaque être humain. La naissance et la mort en sont évidemment les exemples les plus radicaux. D'autres étapes importantes sont le premier jour d'école, l'obtention d'un diplôme, le premier emploi, le début de la vie autonome, le mariage, les enfants, le divorce et la retraite. Dans toutes ces phases, la vie est vécue, des leçons sont apprises et certaines qualités sont développées. On dit parfois d'une personne que sa jeunesse était comme une fleur et sa vieillesse comme un bouquet. Il peut s'agir d'un bouquet frais et radieux, mais aussi d'un bouquet flétri. Mais il ne s'agit là que de l'aspect extérieur, qui est toujours sujet à la décomposition. L'intérieur de l'homme, son essence, est éternel, impérissable, et cherche toujours des occasions à se manifester d'une manière plus majestueuse et plus puissante, en harmonie avec le plan divin de la création. Purification. Dans notre vie, les choses se passent souvent très différemment de ce que nous avions imaginé ou souhaité. Parfois, lorsque vous regardez votre vie en arrière, vous pouvez constater que toutes vos expériences, aussi radicales qu'elles aient pu être, ont contribué à une certaine purification. Parfois, vous avez l'impression que certaines choses devaient arriver pour vous pousser dans une certaine direction ou pour vous protéger. Lorsque vous regardez vos expériences, la plupart d'entre elles se sont révélées être des purifications et des bénédictions au profit d'un grand dessein. Tout dans la vie a un but spirituel qui ne peut généralement être établi que rétrospectivement. La purification. Il s'est alors produit un mystère particulier que l'on n'aurait pas pu sonder auparavant. La vie elle-même, avec tous ses aspects qui nous semblent se dérouler sans but, a initié l'homme inférieur à des vérités plus élevées. Ces vérités supérieures ne peuvent être trouvées dans les livres et les temples. Elles ne peuvent être transmises par des maîtres ou des gourous. Non, elles doivent être trouvées par nous à l'endroit où, au départ, nous les cherchons pas et ne nous attendons pas à les trouver, à l'intérieur de nous-mêmes. Notre soi, avec un S majuscule, attend d'être découvert par nous-mêmes avec un S minuscule. Ligne directrice. De tout temps, des écoles des mystères ont existé afin d'aider les gens sur leur double chemin. Des écoles dans lesquelles la personnalité et l'âme étaient instruites. Des directives pures que les mortels peuvent suivre ont été données avec amour à la personnalité, comme les recommandations du Bouddha qui lui mentionne dans l'Évangile du Verseau. La haine est un mot cruel. Si les hommes vous haïssent, n'y prêtez pas attention. Vous pouvez changer la haine des hommes en amour, en miséricorde et en bienveillance. La miséricorde est aussi grande que les cieux. Il existe assez de bien pour tous. Par le bien, détruisez le mal. Avec des actes généreux, faites honte à l'avarice. Par la vérité, redressez les lignes tortueuses dessinées par l'erreur, car l'erreur n'est que vérité détournée ou égarée. De même que la roue d'un char suit le pied de celui qui le tire, de même, la douleur suivra quiconque parle ou agit selon de mauvaises pensées. Celui qui triomphe de lui-même est plus grand que celui qui massacre 1000 hommes à la guerre. Le noble ressemble à l'idéal qu'il souhaite rencontrer chez autrui. Retournez votre amour le plus pur à celui qui vous fait tort, et il cessera de vous faire tort, car l'amour purifiera le cœur aimé aussi sûrement qu'il purifie le cœur aimant. Des directives similaires peuvent être trouvées sous diverses formes dans la langue sacrée de tous les temps. Les personnes qui suivent le chemin spirituel reconnaissent la grande pureté de ces directives et se dirigent spontanément vers elles parce qu'elles reflètent la vie élevée de l'âme. Elles offrent ainsi à l'esprit la possibilité d'entrer en contact avec l'âme. Par nature, l'être humain, comme tous les autres êtres vivants sur cette planète, se concentre sur son auto-préservation jusqu'à son dernier souffle. L'instinct de conservation est une force vitale nécessaire qui, sur le chemin spirituel, est souvent diamétralement opposée au principe supérieur de l'âme. Cela nous amène parfois à considérer notre chemin comme long et particulièrement ardu. Mais l'aspiration inébranlable à la dignité humaine et à la vie intérieure nous pousse à poursuivre notre chemin. Vie diurne et vie nocturne. L'homme intérieur sur le chemin de l'âge adulte n'est pas laissé sans instruction. L'âme appartient au monde spirituel, mais vit dans le corps d'un être humain mortel. Elle est complètement liée à tout ce qui se passe dans cette personne. Et ce n'est pas rien, car tant la vie diurne que la vie nocturne de l'homme fournissent une série continue d'impressions et d'influences sous la forme de pensées, de sentiments et d'actions. Une école des mystères est donc bien plus qu'un bâtiment dans lequel certains maîtres sont présents et où seuls des élèves triés sur le volet sont admis. Une école des mystères est avant tout un champ de force, un champ d'énergie où la vérité, avec un grand V, peut s'exprimer. Les mystères n'ont pas d'âge et sont inattaquables. Lorsque nous lisons qu'Élisabeth, Jean, Jésus, Marie et Joseph, qui sont tous des aspects de nous-mêmes, ont été enseignés dans l'école des mystères d'Élie et de Salomé, un fait très particulier nous est révélé. Tant la personnalité que l'âme sont mises en contact avec le champ de force de la vérité et sont enseignées et nourries, chacune en fonction de sa propre qualité. Pour la personnalité, les lignes directrices sont présentées sous la forme d'écritures saintes, perceptibles par les sens. Les enseignants apparaissent dans le monde en tant que représentants et porteurs de la vérité sous une forme humaine. Des écoles sont créées dans le monde entier pour permettre aux gens d'établir un lien avec la vérité et de s'élever jusqu'à elle. Mais l'âme n'a pas besoin d'une forme physique d'enseignement. Elle respire la vérité, elle vit de la vérité. En raison de son lien avec la personnalité, l'âme est littéralement privée de son souffle et donc de la possibilité de se révéler. Il n'est pas difficile d'imaginer les dommages causés par des émotions telles que la jalousie, la haine, la critique et l'avidité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'être humain. Lorsqu'une personne est pleine de critiques, elle se concentre exclusivement sur l'objet de ses critiques. elle se ferme aussi complètement à la vie de l'âme, qui est alors reléguée à l'arrière-plan. C'est pourquoi l'âme est instruite sur la manière de diriger la personnalité, car c'est la personnalité qui, dans la vie quotidienne, rencontre de nombreuses choses auxquelles elle est obligée de répondre. Souvent, la situation peut être assez confuse. D'une part, le candidat sur le chemin s'efforce d'obtenir la réaction la plus pure, mais cette action pure s'oppose diamétralement à sa propre nature conservatrice et égocentrique. L'enseignement de l'âme a lieu principalement pendant les heures du sommeil. Le sommeil du corps est la lucidité de l'âme, lit-on dans un ancien texte hermétique. En fonction de l'orientation de la personnalité, l'âme peut être autorisée à se détacher de la personnalité pendant la nuit afin d'établir un lien avec son propre champ. L'âme y reçoit des conseils et des instructions sur la manière dont la personnalité peut être élevée au-dessus d'elle-même, de la meilleure façon possible, afin qu'elle reste soumise à l'âme. Pendant la vie diurne, ces leçons nocturnes de l'âme peuvent être perçues par le candidat à travers ses réactions aux événements de la vie quotidienne. L'école des mystères de l'âme ne peut donc pas être perçue avec les yeux ni comprise avec le seul intellect. L'école de l'âme se révèle à ceux qui suivent effectivement le chemin spirituel et deviennent des disciples de l'âme. Une nourriture particulière. Lorsque l'âme vient de naître dans l'homme, elle est vulnérable. Elle doit être soignée et a besoin de nourriture. Cette nourriture ne consiste pas en une substance physique ou en un savoir, mais en une force particulière. La personne concernée n'est pas encore en mesure d'attirer ou de libérer cette force par elle-même, mais elle peut la trouver dans les écoles des mystères. Joseph, Marie et Élisabeth, avec Jésus et Jean, tous ces aspects de nous-mêmes sont initiés à l'école des mystères de Zoan et renforcés pour accomplir le travail intérieur. Ils entrent dans une nouvelle phase de leur développement. Dans l'Évangile du Verseau, il est dit qu'après 3 ans d'enseignement, ils retournent chez eux, mais pas à Jérusalem où règne encore Archélaüs, fils d'Hérode. En effet, bien que la personnalité soit également instruite, ses forces sont encore trop dangereuses pour l'âme. Mais en même temps, la force intérieure acquise grâce à des années de direction intérieure peut être considérée comme suffisamment forte, car il lui dit à Marie et à Élisabeth, « Nos paroles sont dites. Vous n'avez pas besoin de rester plus longtemps ici. L'appel est venu, la voie est libre, vous pouvez retourner dans votre pays natal. »